un invité qui s'appelle Marco Lamarca. Je vous demande d'applaudir, qui est déjà sur scène. Marco Lamarca, on va parler de devoir de vigilance, SRD, CSDD, comment se mettre en conformité, comment faire une opportunité différenciante. Oui, mais ça, c'est, je sais ce que je fais. Ne t'inquiète pas, je maîtrise et je mesure. C'était un peu le débat de cette matinée. Et donc, avec notre invité, évidemment, on va évoquer l'avenir compétitif de l'Union européenne pour une démocratie, une économie et une société engagée, durable et innovante. Marco Lamarca, je vous cède la parole. Vous avez en gros à peu près 10 minutes, 15 minutes, ça vous va? Et puis n'hésitez pas, comme ce matin, si vous avez des questions à poser, il n'y a aucune question idiote, on compte sur votre réactivité. Marco, je vous cède la parole.
Merci beaucoup et j'espère j'ai toujours la tâche de parler pour premier l'après-midi, c'est toujours difficile parce que je sais comment ça marche. Mais j'espère de ne pas vous ennuyer trop. Mais
rapprochez-vous un petit peu.
Je me dois rapprocher, ok. Ok, donc ce que je vais vous dire en bref, c'est que en fait, je représente ici la vice-présidente Dubravka Šuica, vice-présidente de la Commission européenne en charge de démocratie et démographie. Moi, je m'occupe plutôt de démographie, et donc je vais partir par là, à voir où est notre compétitivité pour l'instant, et quels sont les risques, et pourquoi, en fait, si on devrait bien regarder les données démographiques et où ils nous mènent en termes de productivité, de ressources humaines et aussi de finances. Alors, tout le monde connaît, j'ai ici, on n'a pas eu la possibilité de la montrer, je vous la montre très, très vite. En fait, les couleurs sont ce qui compte, donc ça, tout le monde peut le voir. Ça sont les... Pas tout le monde me voit peut-être.
Ah, ça peut être facile, mais bon.
Ok, donc ce qu'on a de ce côté ici, c'est la structure de la population européenne pour âge de 2001. De l'autre côté, il y a le 2022. Vous pouvez bien voir que, en fait, la partie haute de la structure est en train de croître et la partie basse est en train de se réduire. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit, c'est déjà là. Donc, on peut rien faire contre ça. Et c'est quelque chose qui se passe. Et en fait, je peux partir en vous disant que c'est aussi bonne nouvelle. Le fait que les gens vivent plus longtemps, c'est bonne nouvelle par soi-même, parce que c'est le résultat de la science, des progrès, des styles de vie qu'on a. Donc c'est quelque chose que nous, on voit comme bienvenu. C'est pas mauvaise nouvelle. Normalement, on dit oui, mais l'Europe, c'est un continent qui vieillisse. Oui, bien. C'est une bonne chose. Au moins, nous, ce qu'on dit est qu'il faut plutôt s'adapter à cette nouvelle réalité plutôt que dire « Ouh, on a peur de cette nouvelle réalité ». Vous voyez bien que dans les deux figures que je vous ai montrées, qui normalement devraient avoir la forme d'une pyramide, on est bien loin de la pyramide. Et en fait, on va vers une pyramide inversée, où le sommet se trouve en bas et la partie plus grande se trouve en haut. Alors, tout cela dit, on a vu aussi, grâce aux données d'Eurochambre, quels sont les plus importants défis que les entreprises ont identifiés pour le 2024. Ici, j'ai une autre graphe, mais ça, je vais vous le dire parce que ça va être trop compliqué sinon. Le premier est accès à un prix contenu à l'énergie et aux matières primes. Ça, c'est le plus grand pour les gens. Mais après, il y a les coûts du travail et le manque de travailleurs qualifiés. Nous, on est plutôt concernés par ce deuxième et troisième point, mais aussi le premier est très important. Le problème est que s'il y a un problème d'énergie et de travailleurs qualifiés, il faut bien être malin, il faut bien essayer de plutôt trouver les points d'avantage plutôt que les choses où on n'est pas, on peut dire, à l'aise. Alors, par rapport à la productivité, je vais directement à la productivité. Le problème est que si on a une force de travail qui va diminuer, il faudra que les travailleurs soient plutôt plus productifs. Comment on peut avoir ça? Surtout en investissant sur les matières STEM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, et aussi sur l'économie digitale, qui est bien connectée avec le STEM, et sur le vert aussi. Là, on est en train de créer une nouvelle expertise qui n'était pas présente jusqu'à présent dans le capital humain européen, et il faut bien investir là. Il faut se souvenir aussi du fait que normalement, on a la tendance à dire compétitive pour dire moins cher. Ça ne doit pas forcément être le cas. La compétitivité peut passer aussi par la qualité, peut passer aussi pour des aspects qualitatifs des produits et des services qu'on fait, qui n'est pas forcément la moins chère qu'il y ait. Et en considérant que l'énergie est très chère pour nous, c'est là que la CSRD et la CSDD rentrent dans le cadre. C'est là qu'il faut commencer à voir qu'est-ce que vert signifie. Alors, au niveau, je passe directement au deuxième niveau, qui est le niveau des ressources humaines. Et là, nous, on est en train de commencer à dire la longévité, c'est plus important que le vieillissement. En fait, c'est la même chose. Le vieillissement, c'est le procès. La longévité, c'est le résultat du procès. Et nous, on commence à se focaliser, à mettre l'accent sur le fait que vivre plus longtemps, c'est vraiment quelque chose qui est un cadeau, qui est quelque chose qu'il faut tourner comme avantage pour notre productivité. Bien sûr, il faudra aussi ajouter, dans une certaine mesure, de la migration légale. Il faudra dessiner bien les politiques de migration légale parce que on aura besoin aussi de travailleurs qualifiés. La Commission a déjà commencé à lancer des partenariats de talents avec des pays tiers. C'est-à-dire, si on a besoin d'un certain nombre de travailleurs qualifiés dans les prochains 10, 15, 20 années, il faut toujours commencer à les former dans leur pays d'origine et comme ça, quand ils arrivent, ils peuvent déjà commencer à travailler. On a déjà commencé, on a déjà fait ce genre d'accord avec des pays tiers. Ça vient de commencer, donc on ne peut pas encore voir les résultats, mais on a déjà commencé. Et on a commencé dans le 2023, donc c'est vraiment quelque chose de très récent, mais c'est quelque chose sur lequel la Commission européenne investe beaucoup. Et côté financier, bien sûr, il faudra avoir des investissements dans les nouvelles technologies, dans le vert, et là, il faudra bien sûr compléter l'union des marchés des capitaux. Ça, c'est un autre défi très important pour notre économie, pour l'économie européenne. Dans le rapport Letta qui a été publié il y a quelques semaines, c'est bien remarqué comment cette union des marchés des capitaux est importante. Peut-être aussi le prochain rapport Draghi va le confirmer. Je ne le savais pas quand j'ai préparé cette présentation, mais aussi M. Macron l'a dit hier. Donc c'est bien d'actualité. Et ce qu'on remarque est que de notre côté, du budget de la Commission européenne, le 32,6% du Multiannual Financial Framework, donc le cadre financier pluriannuel, c'est-à-dire 578 billions d'euros, ont déjà été destinés à climate mainstreaming, donc à mettre toutes les politiques climatiques dans les autres politiques, parce que ça c'est très important pour avoir ce genre d'expertise qui nous permettrait d'être plus compétitifs dans le futur. Alors, je suis allé très, très vite parce que je sais qu'on est déjà un peu en retard, donc je prends aussi moins des 10 minutes.
Merci,
mais
c'est gentil.
J'arrive directement aux conclusions. Je souhaiterais rappeler que soutenable ne veut pas dire forcément vert. Quand j'étais étudiant universitaire, soutenable voulait dire qu'il regarde au futur. Donc on parle de soutenabilité, par exemple, pour les systèmes de pension. Là, il faut regarder au futur. Un système de pension ne doit pas être forcément vert, mais il doit bien regarder au futur. Et il faut aussi garder en tête que la soutenabilité, c'est beaucoup plus large que le conseil de climate-friendly policies. Mais en même temps, si on regarde au futur, il n'y a pas de politique qui regarde le futur, qui est soutenable, qui ne soit pas aussi vert. Donc, c'est vrai que le conseil est un peu plus large, mais ce n'est pas complètement différent. Après, un autre conseil que je souhaiterais remarquer dans mes conclusions est que c'est facile à dire, OK, mais nous, on est une portion très petite du monde, donc qu'est-ce que notre contribution peut être? Oui, la tentation d'être freerider est très, très forte. Est très important, mais ça ne veut pas dire qu'il faut, il faut céder à cette tentation. Au contraire, il faut avoir un cadre légal bien clair qui permet aux entreprises de savoir ce qu'ils font et savoir que ça va payer. Et donc, mon dernier point de conclusion est que la soutenabilité peut être bien un levier pour la compétitivité, mais s'il est utilisé de la manière la meilleure. Et on essaye de dessiner cette manière pour qu'elle soit la meilleure. Et je termine ici, mais je suis prêt à prendre votre question.
Il y aura peut-être des questions, et Jérôme Épaule a une question à vous poser.
Cher Marco, d'abord, merci pour votre français qui est excellent et exceptionnel. J'aurais souhaité vous poser la question suivante. Mercredi, effectivement, la directive CSDD a été votée par le Parlement européen. Et comme vous le soulignez si bien, ça va être un plus pour nos sociétés à la fois européennes et versus et par rapport aux sous-traitants des pays tiers. Donc, selon vous et avec la vision qui est la vôtre et votre expertise, pouvez-vous nous dire ici ce que les entreprises vont vraiment avoir comme avantage différenciant par rapport aux pays tiers avec cette nouvelle directive ?
Oui, là, bien sûr, il faudra voir comment les choses vont être implémentées, parce que les politiques vertes peuvent fonctionner en mesure qu'elles sont bien implémentées. Donc, nous, on est encore dans la partie de dessiner le cadre, et ça, c'est bien sûr une partie importante, mais en même temps, ce qu'on souhaiterait faire est assurer que aussi toutes les considérations, pas seulement environnementaux, mais aussi de sociaux et gouvernementaux, soient bien prises en considération. Et aussi dans un cadre où les deux directives sont bien liées avec tous les standards de comptabilité aussi. Donc, ça sera peut-être une petite complication. Ça va ajouter, on peut dire, aux obligations que les entreprises ont. Et c'est pour ça aussi qu'on a bien prévu un cadre pour les petites et moyennes entreprises. Mais le fait est que, on peut dire, ce qu'on va gagner, si on regarde bien au cadre général, si on regarde bien au fait qu'il faut commencer par quelque part, ça, c'est un premier pas. Et donc, on essaie d'aller dans la bonne direction.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, puisque nous avons la chance d'avoir Marco, la marca. Monsieur, micro peut-être, si vous appuyez sur, ce sera peut-être plus simple. Regardez, hop.
Merci, Gens Polo, président de Pan-Europa Albanie. Une question à monsieur. Donc, vous avez présenté la vieillesse, les données démographiques sur la vieillesse, la longévité et leur impact économique. Si on voit aussi le taux de naissance et le taux de fertilité, et on voit les statistiques en général, on parle souvent d'un hiver démographique en Europe et les conséquences dans les années, dans les décennies à venir. Il y a des pays qui essaient de contrecarrer ça, comme la France, l'Hongrie, des autres pays avec des mesures économiques et sociales pour encourager les gens, disons, à se marier et à faire des enfants. Et dans ce contexte, j'ai lu il y a 3 ans, je crois, Madame Suitsa, la commissaire, je pense, en Grèce, elle aurait dit, selon les journaux, qu'au niveau de l'Union, au niveau de la Commission européenne, on aurait envisagé d'adopter des politiques ou des programmes pour encourager, pas dans les voeux de l'État membre, mais dans les voeux, comme je disais, comme elle l'a dit, selon les médias, au niveau de l'Europe. Est-ce que, mais après, on a, j'ai pas vu d'autres choses en suivi. Est-ce que ça a développé quelque chose ou pas ? Merci.
Merci pour votre question très, très précise. Marco.
Oui, donc ce que la vice-présidente a dit en Grèce était plutôt que nous, pour l'instant, on s'est bien concentré sur la partie des gens qui sont là. Pour ceux qui regardent, les gens qui ne sont pas encore là, on a bien développé une toolbox. Donc en français, on dirait une caisse des instruments.
Caisse à outils.
Caisse à outils. Oui, donc on a bien développé ça. Et un des quatre piliers fondamentaux de cette caisse était en fait les jeunes familles. Et alors, ce qu'on a déjà fait, dès qu'on l'a présenté, on a présenté cette caisse à octobre 2023, ce qu'on a déjà fait a été des recherches sur, en fait, la différence entre le nombre d'enfants désirés et le nombre d'enfants actuellement eus par les familles. Et puisque la décision d'avoir ou pas des enfants est une décision vraiment personnelle, vraiment individuelle, nous, on n'a pas vraiment des instruments politiques pour influencer ce genre de décision, mais on peut essayer de réduire cette différence entre ce qu'on veut et ce qu'on a. Alors, pour l'instant, on a fait des recherches. On a vu que on peut dire l'élément qui explique mieux la situation pour l'instant des taux de natalité est le fait que avoir un enfant avec les carrières, avec le fait que avec le marché du travail, comment ça marche maintenant, et que ça coûte relativement plus cher que ça coûtait avant, quand la société était organisée différemment. Cela dit, on verra ce qu'on peut faire, par exemple, pour améliorer toutes les conditions parce que les jeunes parents puissent avoir des services de support à la génitorialité, à être parent dans les premières années de leur vie. Ça, c'est par exemple un défi très important. Mais en même temps, il n'y a pas un cadre théorique qui permet de dire qu'une politique fonctionne mieux qu'une autre quand il s'agit de faire lever le taux de natalité. Ça, on ne l'a pas pour l'instant. Donc, on est encore à la recherche. Peut-être dans les prochains 5 ans, si on aura encore la possibilité de travailler à la démographie à la Commission européenne.
La réponse vous convient, monsieur ? La réponse vous convient ? Parfait. Une autre, dernière question ou deux autres questions ? Allez, monsieur. Madame, on va être gentleman. Je vous donne la parole juste après. Madame.
Bonjour, merci pour votre présentation. Juste une précision. Vous nous avez expliqué que pour l'immigration, c'est quelque chose d'un peu nouveau. L'idée de l'Europe, c'est d'avoir une immigration choisie, mais une immigration choisie où on formerait sur place dans certains pays certains profils pour l'Europe. Mais si on les forme pour l'Europe, on déshabille ces pays, on leur prend leur savoir-faire et leurs talents. On ne résout pas la question de fond de l'immigration complètement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très égoïste. Est-ce que j'ai bien compris votre proposition ?
Réponse de Marco.
Oui, vous avez bien compris, bien sûr, mais c'était moi qui s'est mal expliqué. Parce que en essayant d'aller vite, je n'ai pas tout expliqué. En fait, ensemble avec les Talent Partnership, ce qu'on est en train de soutenir est plutôt un conseil d'immigration circulaire. C'est-à-dire, on les forme, on les fait venir ici, et après quelques années où ils ont contribué à la société européenne, à l'économie européenne, ils ont appris quelque chose, ils peuvent retourner dans leur pays. Maintenant, je me rends compte que ça pourrait être un peu théorique. Parce qu'il faut aussi avoir les conditions pour que les gens reviennent dans leur pays. Et ça, ce n'est pas forcément le cas. Mais on fait les choses petit à petit. On fait les pas un à la fois et donc on essaie. Mais l'idée est plutôt d'avoir une migration circulaire plutôt qu'une fuite de cerveau à notre profit. Que ce n'est pas la solution au problème.
Step by step.
Oui, je
monsieur, vous pouvez vous présenter, c'est important aussi pour qu'on sache qui vous êtes.
François Georges, je représente la Chambre de commerce internationale.
Merci, monsieur.
Je voulais faire une observation. On est là pour parler de compétitivité. Et dans les éléments que vous avez évoqués, on a surtout parlé d'éléments qui vont à l'encontre de la compétitivité. Je citerai donc le vieillissement de la population européenne. Ça va entraîner des coûts importants. Alors on parle de compétitivité quantitative, je n'aborde pas le qualitatif, mais en quantitatif, ça va entraîner des coûts sociaux plus importants. Le verdissement de l'Europe, la lutte contre le changement climatique, ce sont des investissements, des coûts supplémentaires qui peut-être se rattraperont dans le futur, mais qui vont quand même aller à l'encontre de la compétitivité. Et j'ai aussi un sentiment que la directive CSRD va aussi entraîner des coûts pour les entreprises européennes et qui va aller à l'encontre de leur compétitivité vis-à-vis des pays tiers. Alors j'avais une question, mais la personne l'a posée sur la formation. J'avais compris moi, que c'était une formation, ça me paraissait intéressant par rapport à la remarque de madame, qui allait se faire dans les pays. Et du coup, on pourrait imaginer qu'une partie pourrait venir pour de la migration contrôlée en Europe, mais qu'une autre partie pourrait rester aussi dans le pays pour son développement économique.
Merci pour votre question et votre remarque. Marco, une petite réponse rapide.
Oui, très, très rapidement. Oui, c'est vrai qu'il y aura des coûts sociaux importants dans le court terme. Et il faut en fait, ce qu'on essaie de faire est travailler avec les États membres pour que les conséquences des données démographiques qu'on voit, puisqu'ils ont des dimensions très nationales, c'est-à-dire pour certains pays, la démographie, c'est surtout, il y a un pays, l'Espagne, pour laquelle la dimension démographique est surtout des gens qui partent des endroits ruraux pour aller vers les villes, par exemple. Pour l'Italie, c'est une question de système de pension. Pour d'autres pays, c'est d'autres dimensions encore. Donc, ce qu'on est en train de faire est d'aider les États à aborder le sujet qui est plus important pour eux. Et quand il viendra le moment de voir les coûts sociaux, on essaiera de mettre en place aussi des systèmes pour pouvoir aider, parce que ça va arriver aussi. Oui, on est bien conscient.
Merci beaucoup. Plus de questions ? Ah, ultime question, ça sera la dernière. Allez, prenez le micro, oui, vous pouvez appuyer, ça fonctionne.
Very short question. In 2020, Commissioner Dombrovskis asked EFRAG, the regulatory advisory group, to help the Commission on drafting these two directives. My question is, why do you think Commissioner Dombrovskis chose to proceed like this and mandate this EFRAG, this association, this NGO, to do this, to prepare this directive? Instead of a wider consultation, I'm saying, or why did he choose this path? Thank you.
Marco.
Oui, I'll reply in English then. Yes, I'm not aware of why he did that, but what we usually do at the Commission is to make up our mind through general consultation, through asking people, etc. So to make up our mind regarding problems, and then entrust someone with an opinion that can help us in being more being more technically specific. Now, I guess that back in 2020, Dombrovskis, Executive Vice President Dombrovskis, thought that EFRAG was the best placed. But that would not exclude, at least usually in the way we make policies at the European Commission, that would not exclude wider consultations, wider opinions, and the fact that the last word would be ours anyway. Therefore, I'm quite confident that it's not their own opinion that becomes law, basically.
Merci beaucoup, Marco Lamarca, pour toutes ces précisions. C'est important, on applaudit Marco Lamarca, merci beaucoup. Je vous laisse regagner tranquillement la salle, c'était passionnant.